Le marathon des mots présente Yves Charnet, le libraire de Gambetta, épisode 2. Angot, Tillinac et Torel. Je pourrais vous en parler pendant des heures de Christian Torel. Nous l'appelions Toto, avec les enfants nous disions « aller chez Toto » pour aller à la librairie. Toto avait téléphoné pendant mon absence, sont les rapports de Agathe ou Augustin. Les enfants connaissaient par cœur le rayon enfant, puis le rayon jeunesse. Nous allions le samedi acheter des livres chez Toto. Ces livres étaient de toutes les couleurs, tous les formats. Agathe farfouillait du côté du théâtre, Augustin du côté musique. Je n'avais plus rien à mettre dans mes propres bouquins. L'ensemble sombre de mes gestes. Je prenais les chansons pour des poèmes et les romans pour des ritournelles. J'avais le cœur trop grand pour moi, le cœur furieux. Je venais de titrer un livre comme ça, le troisième, en 1998. Christine Angot s'en moqua sans même citer mon nom dans l'incipit de l'inceste. Je dois encore avoir dans mon fourbi le bout de lettre, une carte postale, je crois, où la future chroniqueuse de Laurent Ruquier m'écrivait combien elle avait aimé ce livre, Cœur furieux. Sa lecture l'incitait même à me proposer de faire partie des premiers titres d'une nouvelle collection chez Stock, la collection Sujet. Je crois que ce projet n'est jamais sorti de sa carafe, au bout du décompte. Mais ce Sujet charné est le seul bouquin à m'avoir rapporté un peu d'argent. Un avaloir conséquent pour les premières pages auxquelles nul n'a jamais donné suite. Je bénissais Tillinac de m'avoir épargné pareille tribulation de la vie éditoriale, le micmac parisien. Denis publiait mes livres comme il m'invitait au restaurant. Geste d'une amitié légendaire. Il m'apprenait à lire Blondin et Nimier. Ma mère fulminait que je devenais fasciste. Visage rembruni de quelques camarades rassurés par leur sectarisme. Tilly me parlait de Stendhal et des hussards. Il était intarissable sur Simenon, la moyenne bourgeoisie mise à nu par les enquêtes du commissaire Maigret. Il regardait la vie comme un film de Chabrol, une hilare impitoyable comédie provinciale. J'essayais laborieusement de devenir une sorte de rodagile de l'autofiction, un barbelivien de l'éducation lyrique. Entre deux paquets bleus de gauloises sans filtre, mon ami éditeur ronchonnait que, le jour où j'arrêterai mes conneries, j'aurai le Goncourt, à force de gâcher 20 romans par livre invendable, qu'il avait rarement vu quelqu'un passer avec une telle constance à côté de lui-même, encore pire que Pirotte. Et nous éclations de rire. Avant d'aller déjeuner pendant 3 heures, dans un restaurant trop cher pour Gallimard. Au troisième apéro, j'expliquais à Tilly que je ne voulais pas avoir le Goncourt, surtout pas. Je voulais juste continuer de le ruiner en publiant ses livres hors format, ses inclassables bouquins qui ne ressemblaient à rien. Nous convenions, hilar, que le cas était irrémédiable. Festin comme au bon vieux temps pour chacun de mes retours à Paris. Mon oncle Tillinac était une grande gueule, la droite mousquetaire. Il était à peu près le seul membre de cette truculente confrérie, avec Chirac en tartagnant du sel. Mon ballon de rouge finissait par y croire, en reprenant les riz de veau, sauce madère. C'était toujours des grands crus, Bourgogne ou Bordeaux. Les dottes de frais prenaient le frais dans les seaux à champagne. Bouteille de saumure champigny cernée par une armée de glaçons. Je m'égare, comme d'habitude. Je ne fais pas le portrait de mon premier éditeur, mais de mon libraire préféré. L'austérité torélienne se trouve en léger décalage avec la ribote tillinacienne. Calvin, après Rabelais. C'était dans les dernières années du siècle dernier, du temps de la rue Mondran, de l'avenue Frisac. L'horloger de Saint-Paul. On ne sait jamais quand ça commence à se décoller dans la cuisine. Le papier peint du temps qui passe. La peinture des murs se détache, chanson de Michel Jonas. Il n'y a rien qui dure toujours, mon amour. Il n'y a rien qui soit toujours pareil. Juste faire un peu de pluie avec ma peine. Je la donnerai à manger aux anges, à picorer aux mésanges. De ce nous perdu, je pense que Christian fut le témoin le plus exact, le plus attentionné. Marie-Pierre n'est même pas partie pour un autre que moi, mais à cause de moi. Christian fut un roc pendant la catastrophe de notre divorce. Il les a ramassés avec tact, les éclats brisés de mes 7 ans de malheur. Il récupérera même ce qui ne restait pas de bibive un soir, des sanglots sur une poubelle verte. Il me fit monter dans sa voiture, presque de force. Michel Collot doit encore son souvenir. Invité de la librairie, ce soir-là, j'avais craqué pendant le dîner, brusque crise. J'avais quitté notre restaurant en sanglots. Christian m'avait cherché dans toutes les rues du quartier jusqu'à piler net devant cette grande poubelle verte. J'étais juste un homme jeté, proche du déchet. Je chialais parmi les détritus. J'ai rarement vu autant de bienveillance pudique dans les yeux d'un ami, ce qui n'exclut pas ce léger voile de mélancolie dont ne parle jamais notre calviniste défroqué. Silence sur l'essentiel. Si la vie était un film, hypothèse qui ne serait pas pour déplaire à notre frénétique cinéphile, je choisirais Philippe Noiret pour interpréter le rôle du libraire ce soir-là. Ce serait un beau titre. Le libraire de Gambetta. On dirait d'une adaptation de Simenon, un épisode de Maigret. Ils sont morts tous les deux, Philippe Noiret et Bertrand Tavernier. J'étais allé voir ce classique de l'émotion française, à Nevers avec ma mère en 1974. Elle avait un amour spécial pour ces deux-là en général, et pour l'horloger de Saint-Paul en particulier. Philippe Sard a su condenser l'indicible en quelques notes. L'impossible à dire, c'est ça, la musique. Elles sont sans mots, les choses de la vie. Elles sont là, dans l'air. Et cette terre, des types comme Philippe Sard l'attrape avec leurs mains de magicien. Des types comme François de Roubaix, Nino Rota, Georges Delru, Vladimir Cosma, Ennio Morricone. Il se prénommait Paul, mon géniteur. Ce n'était pas un saint, son fils naturel non plus. Je n'ai pas choisi de devenir écrivain, jamais de la mort. Il n'y avait pas d'autre solution pour le morpion du 6 février 1962. C'est la seule façon que j'avais trouvée pour vivre malgré tout. Pour vivre sans jamais être né, jamais vraiment. Parfois, je parle de choses comme ça dans nos déjeuners avec Christian. Ce sont le plus souvent des petits restos sans chichi tout près de la librairie. Nous mangeons indien, italien, vietnamien, rarement français. C'est réservé au grand soir, au Florida, avec un écrivain invité que nous aimons tous les deux. Michel Deguy, Francis Marmande, Olivier Rollin. La dernière fois, c'était avec Sarah Chiche, pour les enténébrer. Nous avions même réussi à ne pas nous engueuler sur les gilets jaunes. Je me souviens que Sarah avait fait une très belle photo de cet arc-en-ciel que je lui montrais juste au-dessus de la place du Capitole, par-dessus l'hôtel de ville. Elle avait publié dans la nuit cette photo sur FB, l'arc-en-ciel de notre première rencontre. Christian, qui vit caché dans son portable, n'a pas la moindre idée de ce qui se passe sur la planète FB. Au pays des likes et des émoticônes. J'aurais laissé sur cette table de poker menteur 10 ans de ma vie et quelques plumes. Quand je dis que nous sommes différents, amical sourire. Je dois à la loyauté d'ajouter un nom, sur la liste. La liste des personnes qui m'auront furtivement donné l'impression d'exister. Il y a surtout des hommes remarquables sur cette liste. Incurable quête du père, sans doute. Mais la dernière figure en date à m'avoir comme sauvé du vide propre au désœuvrement est une femme puissante. Sarah Chiche. Il n'y a que les rencontres dans la vie. Les bâtards ont toujours besoin de se faire adopter, reconnaître, ils font les malins, les poètes. Le soir où j'ai présenté Saturne fut le dernier des rencontres à Ombre Blanche, avant le deuxième ou troisième confinement, on ne sait plus. Le calendrier de notre époque définitivement détraqué. C'était un vendredi d'octobre 2020. Nous n'avons pas dîné ce soir-là avec Sarah et Christian. C'était de nouveau la panique. La débandade de nos vies détricotées. On a touché au temps. De Chateaubriand à Proust. Et au-delà. Les anarchistes. Sarah Chiche à Ombre Blanche. Je finis d'évoquer ce souvenir 3 rue Maury, le samedi 5 juin 2021, vers 11h du matin. Nous sortons à peine de l'interminable tunnel de ces derniers mois, encore masqués, mal déconfinés. Les gogos se font vacciner à gogo. On prend désormais des assurances contre la mort, des précautions avec la finitude. Je l'ai commencé hier vers minuit. Ce portrait du libraire de Gambetta. Elle va de Louise Michel à Léon Gambetta, notre gauche. Nous en gardons chacun un bout dans cette république rongée par le fascisme macronien. J'entends déjà Christian dire que j'exagère. Enfin, Yves, non. Le camarade Jean-Claude Pinson lui prête rime forte depuis Nantes pour tempérer ma colère, m'inciter à plus de sobriété. Dominique Rabaté ne va pas tarder à rentrer dans la danse, les modérateurs de ma rage surjouée. C'est un colloque intérieur, le cerveau d'un homme. J'entends des voix, fabuleuse compagnie d'une solitude célibataire. C'est une des bonnes choses du divorce, la solitude choisie. C'est l'autre confinement, la retraite voulue, désirée. Je suis en face du fromager charcutier Massembea, mon double à l'envers dans la vitrine. Le bar Saint-Aubin a donc agrandi sa terrasse, mon rituel grand crème, suivi d'un petit. C'est ma façon d'aménager cet exil au pays des chocolatines. Vous êtes bien là, au soleil, dans les écritures. Le masque noir du fromager sur son pas de porte, j'ai sursauté. Rature d'encre bleue sur mon carnet orange. C'est un carnet Clairefontaine, 11 sur 17 centimètres, 96 pages. Je ne suis jamais bien, là, sinon je n'écrirai pas. Le son du Christ à ses apôtres, pourtant désireux de planter leur tente quelque part et d'y rester. J'avais oublié que le samedi, c'est congé, pour ma serveuse préférée. C'est le pantacourt moustachu qui la remplace. Déception infraordinaire. Elle a des jambes à pince dans sa robe short verte, des jambes d'acrobate chez Lautrec. Et son sourire mutin est un autre sucre dans le café du matin. Viens, fifine, au petit bal du Sébasto. La voix gouailleuse du jeune gabin sur une musique de Scotto. La Java, y a rien de plus beau. Zouzou, film de Marc Allégret. En 1934. Faut dire que c'est Joséphine Baker, la fifine du film. J'aime les serveuses. Selon ma phrase préférée d'Olivier Rollin, c'est dans Port-Soudain, note de ma mémoire trouée. Ce sont sans doute les trois livres qui m'auront le plus durablement marqué depuis mon arrivée à Toulouse, le plus intimement modifié. Ils résument assez bien la trajectoire de ma vie dans cette ville depuis 1996. Port-Soudan, Vie secrète, Les Enténébrés. Je dois la découverte du premier à Christian, à la fin d'un déjeuner dans son petit indien. Vous devriez lire Port-Soudan, Yves, je suis sûr que ça vous plaira. son sourire énigmatique de hibou baudelairien. C'est ça, un libraire, un ami. Ça fait quand même du bien, ce petit soleil entre deux nuages sur la table en plastique vert du bar Saint-Aubin, devant la devanture du fromager Massembea. Je n'irai pas jusqu'à Béa, mais pas loin. Je me demande ce qu'il va penser de tout ça, le libraire de Gambetta. Je me souviens encore de ma cuisante déception en finissant son livre sur l'histoire de la librairie Ombre Blanche, publié dans la prestigieuse collection Fiction et compagnie au Seuil. Il n'y avait pas mon nom dedans, pas une seule fois. Il y avait plein d'autres noms, mais pas le mien. C'est soudain comme s'il n'avait pas existé, ces 20 années de collaboration et d'amitié. J'écrivis un courriel à Christian sur cette impression d'abandon. Nous avons passé un déjeuner entier à parler de ça, les yeux dans la voix. Sainte-Beuve non plus n'avait pas eu un mot pour Baudelaire, ou si peu, si mal. J'en ai pourtant plein le cerveau des ombres blanches. Il n'y a rien de plus spectral que tous ces revenants. Ô fantômes remontant l'allée des brouillards, c'est encore Gabin et Morgan s'embrassant sur le quai des brumes, dans les lumières fabuleuses de Henri Alcan. Mon enfance est un poème de Jacques Prévert, une musique de Maurice Jaubert. Je me souviens de l'Atalante, de Drôle de Drame, d'Hôtel du Nord. C'est toute la bande son des années folles à la Grande Dépression de Nana, de Jean Renoir, Au jour se lève de Marcel Carnet. C'est l'enfance de ma mère transférée dans la mienne. C'est mon sous-sol, le tuf archaïque de toute ma poésie. Donc, l'écrivain Chardin n'existait pas, même pour Christian Thorel. Je resterai pour toujours aux marges du centre, une note en bas de page, dans un colloque de cantologie sur poésie et chansons en France, de la fin du 20e au début du 21e. Ce sont des gens d'ailleurs, des anarchistes. J'aurais voulu faire souffler le lyrisme de Léo Ferré dans les papiers collés de Georges Perros. Je n'aurais pas réussi à la faire chanter, la vie ordinaire, la petite vie. C'est le nom de ma mère, charmée. C'est le nom d'une vieille femme morte. Le nom d'une bouche cousue sur ses secrets. Elle avait pourtant la gueule ouverte la dernière fois que... C'était à la maison funéraire de la Charité sur Loire, juste en face du cimetière et du colombarium. Je serais plutôt Piala que Tavernier, comme cinéaste. Même au cœur des plus grandes amitiés, on reste toujours seul. Seul comme Jeff Costello. Ça m'aura pris presque 60 piges pour le piger, comme dans la chanson de Dabadi pour Gabin, c'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. La musique de Maurice Jaubert, les images de Maurice Piala, c'est une mélancolie tellement française. La matière poisseuse de mon imaginaire. Je sais déjà qu'elles seront ponctuelles pour l'ultime rendez-vous. Les ombres blanches du poème. Le dernier mot sera nervalien. Quelque part entre le rêve et la vie. Œdipe à Castres, ou l'enfant secret. L'homme du petit bureau parle, ce soir d'hiver 2012, à quelques jours de Noël. Et vous l'écoutez vous parler de ça, du travail de cette vie dévouée violemment à la diversité des livres, littérature, science, art, philosophie, toute la mémoire du monde, mémoire écrite, imprimée. Il parle brièvement de son enfance, mère lectrice, père sans livre à Castres, petite entreprise de transport, le Tarn, dans les années 1950. Naître le jour de la mort de Staline, 5 mars 1953. Il aura tout juste 15 ans, en 68. Trop jeune, pas assez grand. L'histoire passe à un jet de pierre. Son tumulte turbulent, ses fumées acides. L'homme est un plouc provincial, comme vous. Il habite dans la marche des événements. Trop loin de cette révolte en tenue d'émeute parisienne. L'homme sera surtout un enfant de l'après-mai. Un enfant de cette étouffante retombée. Heureusement, il y a le rock. Cet orage soudain dans la musique. Il y a les Beatles, les Stones, Jefferson Airplane, puis Soft Machine. C'est d'abord la musique qui vient l'arracher à sa particularité locale. Premier pas au dehors, le vent, l'aventure, l'imprévu qui passe. C'est la musique dans tous ses états. Zappa, Schoenberg, Varèse, Anthony Braxton, Don Cherry, Debussy. L'homme dit ses noms. 1972, il a 9 ans, le free, le classique, tout l'univers sonore. Il sera, 10 ans plus tard, ce même enfant déguisé en élève ingénieur, l'INSA Toulouse, bâtiment triste, blouse blanche, expériences en labo. On ne choisit pas ses costumes, les panoplies dans la vieille malle des origines. L'homme est à côté de lui-même, dans une sorte de dédoublement souffreteux. Il ne sait pas, comme tous les enfants, trouver quelle est sa véritable identité, sa place. Mais il cherche, certain d'avoir la réponse un jour ou l'autre. Dans ses mélancoliques années d'apprentissage, il vit, sans bien les comprendre, les désarrois de l'élève Torel. Malaise, impasse, il ne voit pas comment en sortir, quelle autre route prendre. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un accident de voiture, un grave accident de voiture. C'est le 21 novembre 1970. L'histoire ne dit pas si notre boulimique de cinéma a eu le temps de voir les choses de la vie. Chef-d'œuvre sorti sur les écrans le 13 mars. Le cinéma de Claude Sauté doit sans doute apparaître comme réactionnaire à un jeune cinéphile qu'on imagine volontiers lecteur des cahiers en pleine période Mao, sous l'impulsion de Godard et de quelques experts rouges du Front culturel révolutionnaire. Tout cela vient comme le pare-brise de voler en éclats. Cela comme tout le reste. L'histoire nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas. Pas de ceinture de sécurité, pas de chômage, l'ivresse de rouler vite, avec ce brusque bruit au moment de mourir, dans des draps de tôle horriblement froissés. Ce sera encore l'un des plus gros tubes de l'été 75. Numéro 1 des ventes 45 tours la semaine qui précède le rituel massacre du 15 août, l'accident. Michel Sardou pour les paroles et, bien sûr, l'incombustible Jean-Jacques Revaux pour la musique. Vous écoutez le 45 tours en cachette de votre mère. Cet été-là, à Nevers. Vous avez 13 ans. Christian Torel, 22. Il n'est pas le genre de gauchiste à chanter la maladie d'amour dans les villes de grande solitude. Il y a des séquelles dans tout le corps, miraculé mais boiteux. Ses béquilles sortent de l'hôpital 8 mois plus tard. C'est l'été 1971, Oedipe, à Castres. On ne choisit pas ses sorties de route, ni les carambolages de l'existence. On repasse malgré tout par la case INSA Toulouse, dans ce décourageant jeu de loi. À Nevers, vos 9 ans gambergent sur la case prison. Delon, Gabin, le clan des Siciliens. Delon, Bébel, Borsalino. Vous vous prenez pour Roger Sarté, pour Roxy Freddy. Vous êtes toujours aussi troué, toujours aussi fêlé. Pour l'heure, c'est Christian qui s'évade. Insupportable routine de la rentrée de septembre. Un matin de l'automne 1972, il ne se rend pas à l'examen. étude, clap de fin. Vous en prendrez pour 15 ans, ferme. Du bac à Nevers, 1981, la soutenance de thèse à Lille, novembre 1995. Vous n'avez connu personne ou presque à être dévoré d'un tel désir de savoir. Personne comme l'homme qui vous raconte ce soir de décembre 2012 ses années d'errance. Il est devenu une encyclopédie vivante, une bibliothèque à lui tout seul. Il est l'homme livre, l'homme librairie.